Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Dans le contexte du chantier de la réforme territoriale qui a été ouvert par le président de la République avec la création du comité qu'a présidé M. Édouard Balladur, le Sénat, qui est responsable constitutionnel des collectivités territoriales, a mis en place le 15 octobre 2008 une mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales pour réfléchir à cette réforme et pour faire des propositions. Cette mission, présidée par le sénateur Claude Belot, est composée de 36 membres représentant toutes les sensibilités politiques, a adopté deux rapports. Un rapport d'étape en mars 2009 présentant un diagnostic et les premières orientations sur la réorganisation territoriale avec 27 premières préconisations. Et un rapport intitulé « Faire confiance à l'intelligence territoriale » en juin 2009, dans lequel sont présentées 90 propositions sur la gouvernance, la clarification des compétences et les finances locales. Depuis cette date, le Sénat a adopté en première lecture le 4 février dernier le texte du projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales qui doit être prochainement débattu à l'Assemblée nationale. Pour évoquer ces rapports et la réforme en cours, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans notre série d'émissions consacrées aux rapports du Sénat, Madame Jacqueline Gourault, qui en est le co-rapporteur. Madame la sénatrice, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie.
Bonjour.
Vous êtes à la fois une personnalité du Sénat et une spécialiste de l'action publique locale. Sénatrice de Loir-et-Cher, vous êtes membre de la Commission des lois, membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui a été créée en avril dernier. Vous êtes maire de la chaussée Saint-Victor en Loir-et-Cher, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Blois Aglopolis. Vous avez été précédemment conseiller régional en région Centre et conseillère générale en Loir-et-Cher. Et vous êtes aussi vice-présidente de l'AMF, l'Association des maires de France, et présidente de la commission intercommunalité de l'AMF. Vous avez donc une connaissance très approfondie de la réalité de nos territoires. Aussi, nous sommes très heureux, Madame la sénatrice, de pouvoir aujourd'hui vous interroger pour nous éclairer sur cette réforme très complexe, mais essentielle pour les territoires et la démocratie locale. Tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi le Sénat a-t-il créé une mission temporaire sur ce sujet et quel bilan faites-vous des travaux de cette mission ?
Eh bien écoutez, le président du Sénat a très tôt eu l'idée de créer cette mission dans la mesure où le Sénat ne pouvait pas être absent de la préparation de la loi. Puisque le président de la République, comme vous l'avez rappelé, avait confié une mission à Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre. Et en parallèle, disons, le Sénat a voulu accompagner la réflexion qui a précédé à la rédaction de la loi par le gouvernement. Le Sénat étant, comme vous l'avez dit également, le représentant des collectivités territoriales, puisque je rappelle que nous sommes élus, nous, les sénateurs et sénatrices, par les grands électeurs que sont essentiellement, dans leur grande majorité, les maires et les élus municipaux.
Le Sénat est en quelque sorte la maison des collectivités territoriales.
Absolument,
comme on le dit parfois.
Et constitutionnellement, d'ailleurs, toute loi qui touche aux collectivités territoriales passe en première lecture au Sénat, ce qui a été le cas de la loi dont nous allons parler dans quelques instants.
Pourquoi une réforme des collectivités territoriales paraît-elle aujourd'hui nécessaire après les actes 1 et 2 de la décentralisation, c'est-à-dire la période des lois entre 1982 et 2004, donc relativement récente. Donc pourquoi la nécessité d'une réforme ?
Il y avait nécessité de réforme parce que le paysage politique a beaucoup évolué depuis 30 ans, le paysage politique territorial, j'entends, avec, comme vous venez de le rappeler, la décentralisation. Et puis, il y a également eu une autre évolution très importante, c'est le développement de l'intercommunalité. Donc, décentralisation plus intercommunalité ont été deux éléments qui ont beaucoup changé les relations entre les collectivités elles-mêmes et entre les collectivités locales et l'État. Il y avait donc nécessité de clarification des compétences à la fois des collectivités territoriales entre elles et à la fois aussi, car c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est la clarification aussi du rôle de l'État. Que continue à faire l'État et qu'est-ce qu'il arrête de faire puisqu'il l'a transféré aux collectivités locales? Et parfois, on peut voir comment l'État, malgré la décentralisation, c'est-à-dire malgré les transferts de compétences, a toujours tendance à vouloir quand même s'occuper toujours un peu des missions qu'il a transférées. Donc, il y a aussi, en même temps, une nécessité de clarification de la mission de l'État.
Oui, et également, j'imagine, donc entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales.
Et les collectivités territoriales.
Alors, quel est le diagnostic, le constat qui a été fait par la mission? Il est assez critique, puisqu'il dénonce, je crois, enchevêtrement, redondance, manque de lisibilité. Je voulais aussi vous demander si nous sommes une exception en Europe, si notre organisation territoriale avec ses 37 000 communes, etc., est-ce que c'est nous constitue une exception en Europe? Donc, quel est le constat et quelle comparaison peut-on faire avec nos voisins européens?
C'est vrai que nous sommes une exception quand on regarde surtout le nombre de communes. C'est là qu'il y a l'exception française. Ceci dit, cette exception, est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est un handicap? Ou au contraire, est-ce que c'est une richesse? Est-ce qu'elle se justifie? L'histoire de la France est l'histoire de la France. Ça n'est pas l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de l'Italie, que sais-je encore. Et les Français sont très attachés, je dirais, à leur paroisse, entre guillemets, et donc à leur municipalité, puisqu'on sait que, historiquement, les municipalités émanent, en fait, des anciennes paroisses. Et nous sommes un certain nombre, et c'est quelque chose qui a été partagé par l'ensemble des membres de la mission, à penser que c'est plutôt une richesse que ce tissu absolument extraordinaire que sont les municipalités, non seulement dans leur découpage, mais aussi dans le nombre extraordinaire de bénévoles, puisque j'appelle ça des bénévoles, hein, que constituent les conseils municipaux dans les plus petites communes sur le territoire. Et je pense que s'il y a des inconvénients, je dirais, en termes de gestion, l'intercommunalité a répondu au fait qu'une petite commune de très peu d'habitants et très peu de moyens ne peut pas réaliser beaucoup d'investissements. Et donc, en se regroupant en intercommunalité, c'était une réponse, je dirais, peut-être au maillage parfois très petit sur le territoire. Mais en même temps, c'est une richesse qui permet aussi, on a vu récemment encore, des catastrophes naturelles qui se produisent, des tempêtes, et on a vu combien à ce moment-là les élus locaux présents sur le territoire étaient une source de réponse et de solidarité très forte. Et en fait, ça ne coûte pas très cher à la France, ce tissu des mairies. Mais il y a d'autres niveaux,
voilà,
bien sûr.
Il y a ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Oui. Il y a une multiplicité de niveaux, avec trois niveaux sans doute essentiels, le niveau communal, le niveau départemental et le niveau régional. Mais il y a aussi des structures intermédiaires. Et ça, c'est peut-être original en Europe.
Ça, c'est original en Europe. Mais je crois qu'on a, au-delà des communes, on a trop de syndicats de communes, de syndicats de pays, parce qu'on est assez doué en France pour multiplier des structures multiples et variées. Et il y a donc un besoin de simplification. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas sûre que c'est la commune qui soit l'élément, je dirais, le plus gênant. Au contraire, je pense que c'est un élément positif de l'organisation territoriale française.
Effectivement, c'est les champs de la proximité et nos concitoyens, je crois, y sont très attachés.
Oui, d'ailleurs, vous savez, quand il y a les élections, on s'aperçoit qu'il y a deux élections et on vient d'en vivre une. Et on sait très bien qu'il y a eu seulement un électeur sur deux qui sont allés voter. C'est toujours l'élection municipale et l'élection présidentielle qui remportent les suffrages des Français.
Les deux bouts de la chaîne.
Les deux bouts de la chaîne, à la fois la proximité et puis l'élection qui est essentielle dans l'organisation de nos institutions françaises.
Mais effectivement, notre paysage est malgré tout complexe, comme vous le disiez, avec cet empilement et cette sédimentation.
Il a été question pendant longtemps de supprimer un échelon. Et certains étaient favorables à la suppression du département. Ça a été le cas du rapport Attali. On sentait que dans le rapport Balladur, il y avait aussi cette idée. En fait, la réforme, telle qu'elle a été conçue par le gouvernement et par le président de la République, se fait dans le cadre constitutionnel actuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dans les trois niveaux de collectivités territoriales reconnues aujourd'hui par la Constitution. Comme vous venez de le rappeler, communes, départements, régions. À partir du moment où le président de la République avait décidé que c'était dans le cadre constitutionnel actuel, il n'y avait plus de suppression de niveau de collectivités territoriales. Et donc, il a été inventé par le gouvernement et par le président de la République l'idée de conseiller territorial. Et cette idée de conseiller territorial qui a été votée dans la loi qui est passée au Sénat en première lecture, a été sûrement le sujet le plus discuté de l'ensemble des lois, puisqu'il y en a quatre au total.
Cette réforme comporte quatre textes de loi.
Alors, l'essentiel est dans ce texte passé en première lecture au Sénat. Les trois autres lois sont des lois essentiellement de mode électoral.
De scrutin.
Et c'est le conseiller territorial, c'est-à-dire, au fond, un élu qui serait à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui le conseiller général et le conseiller régional. C'est-à-dire que ce nouvel élu
va se substituer aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
Voilà, il siégera dans les deux assemblées, puisque, encore une fois, nous gardons ces deux niveaux de collectivité territoriale que sont les conseils généraux et les conseils régionaux. Alors, ça n'est pas sans poser certaines interrogations. Les plus éminents juristes du Sénat, des élus, disent qu'il y a peut-être aussi un risque d'inconstitutionnalité du conseiller territorial dans la mesure où un même élu va être amené à siéger dans deux niveaux de collectivité territoriale. Or, comme vous le savez, dans la Constitution, il est dit que aucune collectivité territoriale n'a
de primauté
sur l'autre. Et au nom de cette indépendance des collectivités territoriales, les unes par rapport aux autres, un certain nombre de juristes se posent la question de la constitutionnalité de ce nouveau conseiller territorial. On verra, bien sûr, quand le Conseil constitutionnel sera interrogé.
La création de ce conseiller territorial, pour vous, c'est un des éléments importants de cette réforme, mais ça ne doit pas être le seul. Et plus généralement, je voulais vous demander quels étaient, au fond, les objectifs et les grands enjeux de la réforme que propose le gouvernement.
Les grands enjeux, c'est d'abord, un, l'enjeu financier. Et ça, je tiens à préciser, alors là, que c'est dans la loi de finances que les affaires se sont faites, si je puis dire, puisque c'est dans la loi de finances que nous avons supprimé la taxe professionnelle. Et donc, je dirais, c'est aussi quelque chose de très important parce que c'était le nerf de la guerre de beaucoup de collectivités territoriales. Donc, il y a véritablement dans cette loi et dans l'ensemble de ces lois un enjeu de finances publiques avec l'idée derrière que les collectivités territoriales doivent participer, je dirais, à assainir les finances publiques de la France. Alors, je crois que les élus territoriaux sont tout à fait d'accord pour cela, mais en même temps rappellent que les collectivités territoriales votent leur budget en équilibre et que si nous sommes d'accord pour participer à l'assainissement des finances publiques de la France, nous sommes d'accord pour le faire à notre mesure. et que ça ne doit pas empêcher l'État de mener sa propre politique et d'assumer ses propres responsabilités dans l'endettement public français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une clarification, bien sûr, par rapport aux citoyens, pour que les citoyens aient une plus grande lisibilité de l'action publique en France et de l'action politique en France. Et il est clair que ceci passe par notamment une clarification des compétences des collectivités territoriales. Et là, je tiens à préciser que cet aspect des compétences n'est pas traité dans ces lois que nous évoquons aujourd'hui, que les compétences seront dans une loi ultérieure qu'on nous annonce pour la fin 2010 ou début 2011. Tout cela pour vous dire que nous avons mis en chantier une réforme qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Le troisième enjeu de cet ensemble de lois, c'est d'instaurer entre, disons, le pouvoir central et les libertés locales, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, sûrement des relations plus saines sur le plan financier et fiscal, sur le plan des compétences, sur le plan aussi de la confiance entre l'État et les collectivités locales. Et donc, c'est aussi un équilibre subtil entre cette tradition française qui est toujours celle d'un pouvoir central qui a toujours ses vieilles réactions jacobines et ce pouvoir, disons, girondin des libertés locales. Je crois que c'est la particularité de la gestion publique française et c'est un équilibre subtil qu'il faut veiller à bien sauvegarder.
Est-ce que ce projet de réforme répond à vos attentes et à celles du Sénat ?
Oui, dans la volonté de réforme, ce que nous aurions aimé, c'est d'avoir une vision plus globale de la réforme. Le reproche que l'on peut faire, et j'ai essayé à travers ce que j'ai dit, c'est de vous montrer que tout cela est un peu saucissonné.
Morcelé.
En plusieurs lois. Et je pense que...
Il est difficile donc d'avoir une vision d'ensemble.
Voilà, d'avoir une vision d'ensemble.
Du point d'arrivée,
voilà,
au fond.
Et par exemple, prenons un exemple concret, dans la loi que nous avons votée en première lecture au Sénat, il y a eu le principe de la création du conseiller territorial. Bon, mais nous avons une autre loi qui doit arriver sur le mode d'élection du conseiller territorial. Et donc, vous voyez bien qu'il y a en même temps une séparation entre le moment où on accepte le principe et où on ne sait pas encore comment cet élu, ce nouvel élu conseiller territorial, quel sera le mode de scrutin pour l'élire. Et ça, c'est un petit peu gênant, surtout que le mode de scrutin qui a été prévu par la loi ne satisfait pas une majorité.
Alors, quel est-il, ce mode de scrutin ?
C'est un mode de scrutin qui mélange de l'uninominal et un tout petit peu de proportionnel, mais c'est surtout une grande révolution dans le sens que ce serait un scrutin uninominal à un tour. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive en tête au premier tour qui est élu.
Certaines personnes, et notamment au Sénat, nous avons reçu récemment Mme Michèle André, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, s'inquiètent pour la parité homme-femme.
Elle a raison, parce que aujourd'hui, les conseillers régionaux sont élus sur des listes paritaires, à la proportionnelle, avec une dose de majoritaire, mais à la proportionnelle. Et il est clair que dans un scrutin uninominal tel qu'il est prévu par la loi, eh bien, la parité, évidemment, est touchée de plein fouet, puisqu'on sait que dans les scrutins uninominaux, eh bien, les femmes sont beaucoup moins nombreuses à se présenter et donc, par voie de conséquence, à être élues. Moi-même, je suis une élue du scrutin uninominal au Sénat, et nous sommes très minoritaires dans toutes les femmes élues à émaner de ce mode de scrutin.
Je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre notre émission dans quelques instants.
1958-2008, la 5e République fête ses 50 ans. À cette occasion, retrouvez sur Canal Académie les académiciens ministres sous cette constitution. Michel Debré, Alain Decaux, Maurice Druon, Max Gallo, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Messmer, pour ne citer que quelques noms. Retrouvez-les sur Canal Académie et téléchargez librement nos émissions consacrées à ces personnages de l'histoire.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes actuellement à Canal Académie avec Madame Jacqueline Gourault, sénatrice, co-rapporteure de deux rapports du Sénat, rapport d'étape sur la réorganisation territoriale et rapport faire confiance à l'intelligence territoriale dans le cadre de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales. Madame Gourault, vous nous avez donné déjà votre sentiment sur la réforme territoriale en cours et sur le texte du projet de loi adopté par le Sénat le 4 février. Revenons au contenu de votre rapport, dans lequel la mission présente 90 propositions, dont certaines d'ailleurs très audacieuses. Je voulais vous demander quelles sont, à vos yeux et à ceux de vos collègues, les préconisations les plus importantes et celles dont vraiment vous souhaitez qu'elles soient retenues et aboutissent dans la réforme territoriale.
Sûrement, le point qui a été le plus discuté et ressenti comme le plus nécessaire était la clarification des compétences. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous attendons un projet de loi sur cette clarification des compétences. Nous regrettons d'ailleurs que la clarification des compétences n'ait pas fait partie de cette même loi qui est au fond consacrée à l'architecture des collectivités territoriales. Le deuxième point, et qui a été un point très important, c'est bien sûr la rationalisation de l'intercommunalité. D'abord, finir la carte de l'intercommunalité.
L'intercommunalité concerne, je crois, 92% du territoire
absolument,
actuellement.
Absolument. Donc c'est presque achevé. C'est presque achevé. Mais au-delà du quantitatif, si je puis dire, il y a le qualitatif, car nous savons qu'il y a des intercommunalités qui n'ont pas une pertinence de territoire par rapport à un bassin de vie, par rapport à une réalité géographique, de vie quotidienne, de déplacement, domicile-travail, etc. Et donc, il y a une rationalisation de l'intercommunalité à faire. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très souhaité, très attendu. Et je dois dire d'ailleurs que c'est sûrement ce dossier, à savoir l'intercommunalité, qui fait le plus consensus entre les souhaits de notre mission et la réalité des lois qu'on nous a proposées. Le débat au cours de la partie intercommunale a été très constructif, je dirais, avec des votes qui se sont faits souvent à l'unanimité. Ça n'a pas été le même sujet pour le conseiller territorial. D'ailleurs, notre rapport n'avait pas soutenu l'idée de la création du conseiller territorial, mais avait proposé un exécutif, je dirais, régional, qui aurait permis de mieux coordonner les politiques régionales et les politiques départementales.
Et pourquoi votre mission donc était hostile au fond au conseiller territorial ?
Au fond, sûrement parce que c'est compliqué, je pense, de laisser subsister deux niveaux de collectivité territoriale et d'y mettre les mêmes élus sans penser à ce qu'il y ait rapprochement des fonctionnaires. Et puis aussi, disons-le, parce que, il faut être honnête, beaucoup de sénateurs sont aussi présidents de conseils généraux et qu'ils ne voyaient pas très bien, ou pas d'un bon œil, si vous voulez, cette naissance des conseillers territoriaux.
Donc vous êtes en revanche satisfait et satisfaite en ce qui concerne les intercommunalités.
Oui, vraiment, on peut dire que en ce qui concerne les intercommunalités, je dirais c'est un des points qui a fait le plus l'unanimité. Alors on pourrait peut-être aussi parler.
Leurs compétences seront renforcées.
Et c'est un élément qui est reconnu comme un élément fédérateur, apportant une meilleure gestion des fonds publics, construit sur la volonté des élus locaux, qui correspond bien, je crois, grâce à la loi Chevènement, à l'esprit ou l'état d'esprit des élus, et en particulier des élus municipaux français.
Et qui permettent de mener à bien de grands projets, des réalisations concrètes.
Qui permet au fond de faire ensemble ce que les municipalités, et en particulier les plus petites, n'étaient pas capables ou plus capables de faire toutes seules. Et je crois que c'est une idée intéressante et qui sera sûrement une étape vers parfois la fusion de certaines communes. Car dans la loi aussi, il est envisagé ce qu'on appelle les communes nouvelles, c'est-à-dire la capacité pour certaines communes à fusionner pour ne faire qu'une seule commune à l'intérieur d'une intercommunalité.
Car sur la base du volontariat.
Sur la base du volontariat. Car nous pensons et nous avons vu que toute politique, je dirais, trop autoritaire, trop directive en France, a du mal à passer.
Madame la sénatrice, nous arrivons à la fin de notre émission et avant de nous séparer, je voulais vous demander quel était le calendrier prévu pour le vote de la réforme territoriale. Vous avez évoqué donc 4 textes de projet de loi. Le Sénat en a adopté 2. Les 2 textes adoptés par le Sénat sont, je crois, dans le bureau de l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur...
Alors, le premier texte qui a été adopté, à savoir sur le fait de raccourcir la durée du conseiller général et du conseiller régional pour aboutir à un conseiller territorial et passer dans les 2 assemblées. La loi principale, celle dont vous parlez, qui va être la loi sur l'architecture territoriale, va être débattue très certainement au mois de mai ou juin à l'Assemblée nationale et reviendra donc à l'automne au Sénat. Mais en attendant, nous allons commencer à étudier la loi sur l'élection des conseillers territoriaux, sûrement en mai-juin. Et il va y avoir donc...
Donc en parallèle.
En parallèle. Alors bien sûr, tout cela fait beaucoup débat. Et je voyais aujourd'hui, au lendemain de ces élections régionales, le président sortant des régions demander... que soit arrêtée cette réforme territoriale. En tant que président des régions, lui aussi n'est pas partisan de la création du conseiller territorial. Donc je pense que nous allons avoir des débats un peu vifs dans les semaines qui viennent.
Madame la sénatrice, merci et nous serons heureux de vous retrouver peut-être pour la suite de ce dossier sur Canal Académie.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée.
Je vous en prie. Au revoir, Madame la sénatrice.